Et qu'on ait choisi deux parmi 202, bon, c'est pas un hasard. Je crois que vraiment, c'est de la politique derrière.
Mohindo Nzangi, député MSR en République démocratique du Congo, avec Sonia Rolé. Alors que du côté de la majorité, on défend la position du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, celui-ci dément une manipulation et une quelconque pression sur les députés en ce moment. Il dénonce en revanche l'attitude des élus contestataires. Pour lui, il profère des accusations graves. Aubin Minaku réclame tout simplement que la justice puisse faire son travail.
Une infraction de faux en écriture perpétrée par un agent public, c'est une infraction grave. Donc s'il y a eu faux, cela doit être réprimé. Notre devoir, c'est aussi de veiller à ce que l'ordre public soit en tout temps sauvegardé.
Donc vous démentez qu'il puisse y avoir une quelconque tentative d'intimidation de ces députés d'opposition, ce que affirme.
Vous savez, en pareille circonstance, il est facile de faire état d'une intimidation. Mais cette requête a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale depuis plus d'un mois. Il s'agit d'une action judiciaire et nous devons apprendre dans un état de droit à respecter la séparation du pouvoir, respecter les tâches du pouvoir judiciaire et ses pouvoirs.
Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. J-1 avant le référendum sur le projet de constitution en Centrafrique. Les électeurs doivent se rendre aux urnes demain à Bangui. Comme dans les provinces, l'Agence nationale des élections essaye de déployer le matériel et le personnel. Mais ce n'est pas facile, Matteo Guidou.
Des centaines de messages « Zuma must fall »,« Zuma doit tomber » circulent sur les réseaux sociaux. Depuis mercredi, c'est une véritable tempête qui s'est déchaînée contre le chef.
Nous allons donc retrouver le reportage de Matteo Guidou. Je vous rappelle que c'est demain le référendum sur le projet de constitution en Centrafrique. Et ce n'est pas facile pour l'Agence nationale des élections d'acheminer le matériel et le personnel dans les bureaux de vote. Matteo Guidou. Nous n'avons donc pas le reportage de Matteo Guidou, donc nous passons en Afrique du Sud. La contestation gronde après le limogeage cette semaine du ministre des Finances, un ministre jugé compétent. Le président Jacob Zuma a remplacé Nhlanhla Nene sans donner pourtant de raison. Mais les spéculations vont bon train. Nene était dans le collimateur de la présidence pour s'être opposé à des projets trop coûteux pour le pays. Depuis mercredi, donc, les critiques fusent de toutes parts. À Johannesburg, Alexandra Branjon.
Des centaines de messages « Zuma must fall »,« Zuma doit tomber » circulent sur les réseaux sociaux. Depuis mercredi, c'est une véritable tempête qui s'est déchaînée contre le chef de l'État, accusé de faire passer ses intérêts avant ceux du pays. Les milieux financiers, politiques, sociétés civiles, syndicats, même la COSATU, la Confédération des syndicats, pourtant alliés du gouvernement, a jugé la décision du chef de l'État irrationnelle. Côté gouvernement, c'est le silence. Le ministre à la présidence, Jeff Radebe, a avoué ne pas avoir été informé de la décision du président de limoger son ministre des Finances.
Je parle pour moi. Je ne pense pas que le cabinet était au courant qu'il y allait avoir un remaniement. Nommer et limoger un ministre du gouvernement reste une prérogative du président de la République.
Même discours du côté du parti au pouvoir. Pumzukizi Mkobo, analyste politique, personne à l'ANC n'osera s'opposer au chef de l'État.
Zuma a toujours réussi à s'en sortir, malgré de nombreuses décisions douteuses dans le passé. Personne à l'ANC ne l'a jamais défié et personne ne le fera cette fois-ci, car beaucoup de gens sont là grâce à lui. Beaucoup ont peur de lui et personne n'a le courage et l'honnêteté de l'affronter.
Les analystes ajoutent, Zuma a une capacité de survie politique incomparable. Il faudra attendre les élections locales dans 6 mois pour mesurer l'insatisfaction réelle des Sud-Africains. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI.
Grossesse non désirée, mariage précoce trop fréquent et prostitution. À Madagascar, l'association Youth First réunit cette semaine une centaine de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, sommet de jeunes filles leaders, pour échanger sur ces problématiques qui les touchent en particulier, tenter de trouver des solutions et aussi pourquoi ne pas faire émerger de futures dirigeantes qui pourront faire changer les choses dans le pays. À Madagascar, où près de la moitié des jeunes femmes de moins de 25 ans ont été mariées ou en union avant l'âge de 18 ans. Voici le reportage de Marie Audran.
Cynthia a 17 ans, elle vient de Tuléar, principale ville de la côte sud-ouest. Elle constate que la prostitution est très répandue chez les filles de son âge.
Le problème chez nous, c'est que beaucoup de filles ne vont pas à l'école. Leurs parents n'ont pas les moyens et elles sont sous influence d'autres filles. Elles veulent être bien habillées, avoir de l'argent facile et elles tombent dans la prostitution.
À Diego Suarez, à l'extrême nord du pays, Seriza, 19 ans, a vu ses anciennes camarades de classe abandonner l'école sous la contrainte de leurs parents.
Beaucoup de parents incitent leurs filles à aller se marier à un homme riche pour avoir ensuite de l'argent et pour accéder à un certain statut social.
Des filles dominées par leur famille et leur conjoint, Fitiavna, 16 ans, fait le même constat à Tamatave, sur la côte Est. Les jeunes filles ne sont pas libres, dit-elle. La contraception, notamment, est taboue, d'où de nombreuses grossesses précoces.
Les garçons ne veulent pas se protéger, les filles ont peur, les parents font pression. Pour eux, faire un planning familial, c'est mal. C'est ancré dans leur esprit et je veux changer cet état d'esprit. Je veux le changer parce qu'on ne peut plus subir ce genre de truc.
Selon une étude nationale menée en 2009, plus d'une adolescente sur trois est mère ou a déjà été enceinte. Marie Audran, Antananarivo, RFI.
Antananarivo, où il est 15h46.
Guillaume Cordeau.
Merci d'écouter Radio France Internationale. À suivre dans le prochain quart d'heure, le reportage Afrique avec le cinéma en Tunisie. Les jeunes sont très demandeurs de salles obscures, mais les autorités peinent à donner les autorisations nécessaires pour les ouvrir. Il y en a une dizaine pour l'instant, principalement dans la capitale. Pourtant, c'était une promesse de campagne du président Béji Caïb Essebsi. Le journal des sports sera également au menu et la chronique Nouvelle Technologie avec un exosquelette qui pourrait bien révolutionner le domaine de l'assistance au mouvement des personnes handicapées ou des travailleurs qui portent de lourdes charges. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec la semaine de Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Anthony Latier.
À la une, l'affaire Guillaume Soro. Il y a ceux qui perçoivent dans les petits désagréments parisiens de Guillaume Soro un coup de semonce qui en annonce de bien plus grave, et ceux qui préfèrent y voir une victoire du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Où donc se situe la vérité, Jean-Baptiste, dans cette affaire qui a failli ébranler les relations entre la France et son ancienne colonie?
Tant mieux pour Guillaume Soro si ses partisans estiment pouvoir tirer un motif de contentement de la levée de ce mandat d'amener. Il n'empêche que dans le fond, ce type d'affaire ne grandit personne. Il aurait peut-être suffi pour le deuxième personnage de l'État ivoirien de répondre d'une manière ou d'une autre aux convocations du juge pour ne pas se retrouver ainsi dans l'actualité. Les propres amis de Guillaume Soro au sein de l'Assemblée nationale, en lui apportant leur soutien, ont sans le vouloir souligné les inconvénients pour l'image de leur institution du refus de répondre aux convocations. Ainsi, lorsqu'il proteste de ce qu'un tel mandat avait pour conséquence de minimiser la qualité et l'importance de l'institution parlementaire ivoirienne, ils ne font que souligner la gravité de la faute qui a consisté, pour leur président, à faire le mort. L'on est toujours perdant à traiter la justice par le mépris. Cet incident est clos. Mais personne n'a oublié que depuis près de 2 mois, Guillaume Soro s'invite dans l'actualité avec des signaux peu rassurants qui sont autant d'atteintes à l'institution qu'il préside.
Oui, vous faites, Jean-Baptiste, sans doute allusion à la fameuse bande-son de cette écoute dans laquelle la voix que l'on prête à Guillaume Soro planifie l'élimination physique de quelques hommes politiques burkinabés tout en reconnaissant quelques assassinats passés, mais ces conseils contestent l'authenticité de ce document.
Pour une affaire d'une telle gravité, il faut bien plus que de simples dénégations pour réfuter la paternité des propos en question. À Ouagadougou comme à Abidjan, les gens sérieux admettent que ce document peut difficilement être un faux. Et si c'était le cas, alors il faudrait instaurer un prix Nobel de l'imitation et l'attribuer définitivement aux auteurs. certaines des personnes désignées dans ce document comme ne méritant pas de continuer à vivre disent même avoir détecté quelques codes qu'elles seules connaissent en dehors de leur ancien ami devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'authenticité de cette écoute a du reste été validée par le premier ministre de la transition au Burkina et l'on imagine qu'il a bien plus d'éléments d'appréciation que nous autres citoyens ordinaires. Si votre question est de savoir qui de Soro ou de Zida est le plus crédible, nous devons humblement admettre que nous n'aimerions pas avoir à répondre à une telle question, parce que cela reviendrait à dire qui des deux a le parcours le plus solide ou le moins tortueux et qui a les plus mauvaises fréquentations. Toujours est-il que les incidences de cette bande sont d'une gravité qui ne saurait être résolue par une tentative d'étouffement de cette affaire. Et puis, très sérieusement, il n'est pas concevable que l'on tue ou projette de tuer aussi facilement si l'on veut que la démocratie sur ce continent, et particulièrement dans cette sous-région ouest-africaine, s'enracine durablement.
Alors aujourd'hui, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui peut bien perturber la quiétude du leader des ex-forces nouvelles ?
Très concrètement, Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a conquis son second mandat et y est entré de plein pied désormais. Cet homme qui a un souci scrupuleux de son image et probablement de la place que lui fera l'histoire n'a certainement pas l'intention d'y apparaître comme l'homme qui n'a voulu la faux et le glaive que pour ses adversaires. À présent qu'il n'a pratiquement plus rien à craindre ni à perdre d'un point de vue politique, il va devoir concéder quelques gages à la justice de son pays comme à la justice pénale internationale. Et si, par quelques imprudences dignes de novices, un ex-chef de guerre, absous et anobli par le suffrage universel, ouvre lui-même le placard de ses cadavres, lui, chef de l'État ivoirien, n'aura qu'à compatir si la CPI venait à se saisir de ses imprudences pour lui demander de répondre de son passé.
Merci Jean-Baptiste Placard.
Merci Anthony Latier.
Et il est 13h52 presque à Paris, 12h52 temps universel. Le cinéma n'est pas mort en Tunisie, il dispose même de quelques beaux festivals comme celui de Carthage. Pourtant, les autorités tardent à ouvrir plus d'endroits pour le découvrir, découvrir ses films, alors que c'était l'une des promesses électorales du président de la République. L'initiative est pourtant restée lettre morte. Plus d'un an après l'élection de Béji Caïd Essebsi, il n'existe qu'une dizaine de salles de cinéma en Tunisie, principalement concentrées sur la capitale. Mais les ciné-clubs à travers leur fédération et quelques privés veulent faire bouger les choses. C'est un reportage de Jian Bergaoui.
Ici, on est dans le hall, qui donne immédiatement sur la salle, que voici.
Ça sent encore la peinture.
Ça sent encore la peinture, ça sent encore le velours, ça sent encore la salle qui vient d'ouvrir.
Velours rouge sur les fauteuils, murs d'un blanc écarlate, mais aussi un projecteur numérique à la place du traditionnel appareil 35 mm. Après quasiment 3 ans de travaux, Moncef Douib vient tout juste de rouvrir le Cinévogue, une salle de quartier située au Kram, une banlieue populaire de Tunis. La salle était en ruine, fermée depuis plus de 20 ans, alors rouvrir le Cinévogue pour Moncef Douib, également cinéaste, et c'est un acte civique.
Savez-vous qu'en Tunisie, depuis l'indépendance, on n'a pas construit un nouveau théâtre. On n'a pas construit une seule salle de cinéma. Nous sommes en train de récupérer du vieux. On est des brocantiers de l'art et de la culture. On récupère l'ancien et on retape. On est obligé aujourd'hui de livrer la rude bataille, de réouvrir les espaces, d'en en faire d'autres et de faire ce que nous faisons ici, des salles de proximité. Aller à 20 km pour aller voir un film, personne ne le fait plus. Donc la salle de proximité, la salle de quartier, nous le vous long.
Le cinéma de proximité, c'est aussi l'engagement de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs qui a connu son âge d'or dans les années 70. Aujourd'hui, une nouvelle génération tente de faire renaître l'esprit de ces ciné-clubs à travers tout le pays. Fatma Pchini est la secrétaire générale de la Fédération. Pour elle, il faut exploiter tout écran disponible.
On essaie de pallier ce manque de salles de cinéma en exploitant les salles de projection, par exemple dans les maisons de culture, dans les maisons de jeunes. Il suffit de trouver un écran ou un mur qui pour remplacer un écran et pour faire une séance de ciné-club. Par exemple, il y a des films tunisiens qui ne peuvent pas être projetés dans les régions car il n'y a pas de salle de cinéma. Donc ici, c'est le ciné-club qui prend le relais. C'est une forme quand même alternative de permettre à un film tunisien qui vient de sortir dans les salles ici au centre-ville d'être aussi projeté, je ne sais pas, à Gasserine, à Touzer, à Tataouine, où il n'y a même pas une salle de cinéma.
La Tunisie ne compte aujourd'hui plus qu'une dizaine de salles de cinéma. C'est 10 fois moins que dans les années 50. Jeanne Bergaoui, Tunis, RFI.
Accra, 89.5 FM.
Et on trouve tout de suite les sports avec Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Et d'abord le football, la CAN des moins de 23 ans s'achève aujourd'hui au Sénégal et on attend non pas un mais deux vainqueurs.
Oui, il y aura un premier vainqueur, celui qui de l'Algérie ou du Nigeria remportera la grande finale et sera donc sacré champion d'Afrique dans cette catégorie d'âge des moins de 23 ans. Mais le match pour la troisième place qui opposera le Sénégal à l'Afrique du Sud est tout aussi capital, sinon plus, car le vainqueur prendra le dernier ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques. À Dakar, Eric Mamrut. Eric Mamrut.
Pour une fois, la petite finale d'une CAN a plus d'intérêt que la grande, car l'enjeu est d'importance. Aller à Rio l'an prochain. Pour l'Afrique du Sud, ce serait sa deuxième participation après celle de l'an 2000. Pour les Sénégalais, ce serait la deuxième consécutive après la belle épopée de Londres 2012. Mais pour espérer imiter Sadio Mané et consorts, les hommes de Serigny et Saliou Dia devront avoir digéré leur cruelle élimination en demi-finale contre le Nigeria. Un match largement dominé mais perdu qui a pu les laisser des traces au niveau mental. Ils le devront d'autant plus que l'Afrique du Sud semble à présent bien meilleure que celle qui avait été dominée 3-1 justement par le Sénégal lors du match d'ouverture. Cette fois, ces deux stratèges, Mazoukou et Motupa, seront bien là pour tenter de briser l'espoir sénégalais. La finale Algérie-Nigeria sera ensuite un match gala. Les deux équipes ayant rempli leur objectif principal d'aller à Rio, c'est totalement libéré qu'elles aborderont la rencontre. Elles voudront néanmoins marquer l'histoire. Les Algériens en remportant une nouvelle CAN après celle des seniors en 1990, les Nigérians prouvant qu'ils sont bel et bien les rois des petites catégories après leur récent triomphe à la CAN U20 et à la Coupe du Monde U17. Eric Mamrut, Dakar, RFI.
La finale donc de cette CAN des moins de 23 ans, Algérie-Nigeria, coup d'envoi à 19h temps universel et juste avant la petite finale à 16h temps universel entre le Sénégal et l'Afrique du Sud.
Le football en France à présent, Christophe, avec la suite de la 18e journée de Ligue 1 ce samedi.
On scrutera notamment la performance de Lille qui semble aller mieux depuis le départ d'Hervé Renard du poste d'entraîneur. Les Lillois qui restent sur deux succès consécutifs affrontent le Lorient du Camerounais Benjamin Moukandjo, 11 fois buteur en championnat depuis le début de la saison. Les autres matchs, Reims-Nice, Montpellier-Guingamp, Nantes-Toulouse et Troyes-Bastia. Hier, en ouverture de cette 18e journée, Rennes et Caen se sont neutralisés, un but partout.
En fin d'après-midi, toujours en France, tous les regards seront tournés vers le Palais des Congrès de Paris où aura lieu le tirage au sort de l'Euro 2016.
Oui, 24 équipes, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a 24 équipes dans un Euro de football. 24 équipes donc vont être réparties en 6 groupes pour le premier tour de la compétition. Un championnat d'Europe qui se déroulera dans 10 villes de France du 10 juin au 10 juillet prochain, c'est facile à retenir. Tirage au sort à vivre en direct donc sur RFI avec nos envoyés spéciaux au Palais des Congrès, Christophe Diremzian et Éric Chorin. Et une émission spéciale que RFI vous propose donc entre 17h20 et 18h, temps universel.
Et on termine avec le handball.
Et l'Angola qui se qualifie pour les huitièmes de finale du championnat du monde de handball féminin au Danemark. Les Angolaises, vice-championnes d'Afrique en titre, ont dominé hier la Chine 32-29. Elles terminent quatrième de leur groupe, ce qui leur permet de poursuivre leur parcours. Leurs prochaines adversaires seront les Monténégrines, les deux autres nations africaines engagées dans ce mondial de hand féminin. La Tunisie et la RDC sont elles d'ores et déjà éliminées.
Merci beaucoup Christophe Jousset et je vous rappelle que si vous voulez retrouver nos principales actualités et notamment le sommet de climat du Bourget près de Paris, c'est sur le www.rfi.fr. Bonne journée à tous.
Découvrez le nouveau site RFI Afrique, votre lien permanent avec l'actualité du continent.
RFI Afrique, c'est un accès en temps réel, 24h sur 24, à toute l'actualité politique, sociale, économique et culturelle de votre région. sur RFI Afrique. Retrouvez également notre sélection des titres de l'actu africaine, les infos par pays et écoutez RFI en direct et à la carte à tout moment.
RFI Afrique, c'est dès maintenant sur votre mobile, votre tablette et votre ordinateur sur afrique.rfi.fr.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.